en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde. Nous nous intéressons dans ce troisième volet au théâtre de Marguerite Yourcenar. Pour nous en parler, nous accueillons Sylvie Joigny, professeure à l'Université de Paris 12. Bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie. Et pour la musique, ce sont des extraits de l'opéra de Gluck, Alceste, qui nous accompagneront tout au long de cette émission. Peut-on dire, Sylvie Joigny, qu'il existe un théâtre de Marguerite Yourcenar? En tout cas, ce n'est pas par son théâtre qu'elle s'est taillée une renommée internationale ni même nationale. Ses pièces, d'ailleurs, ont-elles été jouées?
Oui, on peut dire qu'il existe un théâtre de Marguerite Yourcenar. En tout cas, il y a une œuvre qui est étiquetée comme telle par l'auteur et éditée comme telle par les éditions Gallimard en 71. Et qui s'étale globalement des années 30 aux années 70, pendant que paraissaient d'ailleurs les grandes œuvres de l'auteur. Deux volumes en tout, 6 pièces, que je vais rapidement énumérer. Un premier volume de 3 pièces, peu connues, qui constituent des réécritures de matériaux anciens. Rendre à César, pièce écrite en 1961, à partir d'un roman écrit lui-même en 1934 et publié dans sa version définitive en 1959, sous le titre de « Denier du rêve » sur l'Italie fasciste de 1933. Une deuxième pièce, « La petite sirène » écrite en 1942, dont le sous-titre dit bien l'entreprise de réécriture du conte, « Divertissement dramatique » d'après le conte de Hans Christian Andersen. Et puis, « Le dialogue dans un marécage » écrit en 1930, inspiré de quelques vers de Dante, qui évoque un fait du Moyen-Âge italien, une patricienne siennoise enfermée dans un château jusqu'à la mort par un mari jaloux. Et un deuxième volume de 3 pièces, qui est une réécriture originale de mythe grec, Électre ou la chute des masques, écrite en 1954, Le mystère d'Alceste, écrit en 1942, Qui n'a pas son Minotaure, point d'interrogation, écrit en 1943. Il existe donc bien un théâtre de Marguerite Yourcenar, mais il est de bon ton de suggérer que ce théâtre ne serait intéressant que comme éclairage de l'œuvre globale. On y trouverait, de fait, une même expression du tragique de l'aventure humaine, une même inspiration libre aux sources anciennes, une même quête de lucidité, de sagesse, une même recherche d'une écriture dense, précise, pure. Certes, mais il me semble que ce raisonnement est trop simple et qu'il vaut mieux s'intéresser à une autre idée. Ce théâtre, effectivement, est un théâtre très écrit. Et comme pour ses autres œuvres, ce sont la précision de l'idée, la recherche de l'effet qui façonne cette écriture, plus que la perspective de sa représentation scénique. On peut constater d'ailleurs qu'il y a très peu de didascalie dans cette œuvre et ses préfaces comportent très peu de réflexions sur le passage à la scène. Elle le dit elle-même d'ailleurs dans un entretien avec Jacques Chancel, « Je ne crois pas qu'on écrive du théâtre pour l'envie d'être joué. On le fait pour le plaisir du libre dialogue, de créer des personnages. On peut même dire qu'elle fait obstacle elle-même à la représentation de ses pièces, domaine réservé, dit-elle. Théâtre très écrit, disais-je, on pourrait aller plus loin, un théâtre littéraire, pour des lecteurs, plus que pour des spectateurs, et des lecteurs cultivés, qui ont en mémoire mythes et légendes, et si possible, une connaissance du théâtre de l'époque, dans lequel s'insère et s'invente Marguerite Yourcenar, j'insisterai beaucoup sur cet aspect. Alors, cette caractéristique d'un théâtre littéraire explique peut-être que ce théâtre ait été peu joué, pour répondre à votre question, et que la critique elle-même s'y soit, je le regrette beaucoup, fort peu intéressée. Et cela me semble dommage parce que ce théâtre utilise toutes les potentialités de l'art de l'illusion et de la convention. Je dirais même qu'il l'utilise en virtuose. Et c'est ce que je vais essayer de dire en précisant sa conception du théâtre. Pour caractériser globalement cette théâtralité particulière de Marguerite Yourcenar, je vais m'appuyer sur une phrase un peu longue de la préface de Dialogue dans le marécage. Ce n'est pas tant l'impermanence des choses humaines que leur incertitude, ce mot est très important, que leur incertitude que je m'efforçais de présenter dans cette petite pièce. Qu'il s'agisse d'incertitude sur l'identité de la personne, d'un changement de nom, d'un travesti, ou d'un brouillard d'opinion nous cachant le véritable aspect d'un être, ses sentiments ou sa position par rapport à nous, j'aurais sans cesse essayé de montrer que tout est autre que nous ne le pensons. Vérité banale, que ne conteste personne, mais dont personne ne tient compte, et qui nous transforme dès que nous sommes pénétrés d'elle. Cette conception du théâtre, qui est issue donc de Dialogue dans le marécage, me semble expliquer tout son théâtre, y compris le théâtre grec sur lequel nous reviendrons sans doute tout à l'heure. Je reprends, tout est autre que nous le pensons et cette vérité nous transforme. Il me semble que ce postulat donne la clé de la dramaturgie de Marguerite Yourcenar. Celle-ci utilise le réservoir de procédés du théâtre pour montrer que l'être est avant tout un potentiel de mutation. C'est la métamorphose qui constitue l'enjeu même de l'œuvre. Alors, quels sont ces procédés d'incertitude ? Premièrement, la multiplication des points de vue et par conséquent la relativisation de l'ensemble des personnages, des situations, des enjeux. Le jeu est un tu, est un il, est un nous, est un vous, etc. Le jeu est un autre et l'autre est un jeu. J'aurai l'occasion de le montrer avec, en prenant d'autres exemples. Ainsi a-t-on, par exemple, une galerie de personnages qui peuvent aussi bien intégrer des personnages muets ou au contraire un nombre très resserré de personnages, c'est le cas dans Qui n'a pas son Minotaure, mais intégrant des voix de toutes sortes qui sont autant de virtualités d'un seul et même personnage et qui permettent des effets de choralité qui sont évidemment un summum de la théâtralité. Deuxième grand procédé, la construction d'un univers entre rêve et réalité. Les personnages peuvent être des personnages hybrides. C'est le cas de la petite sirène, une femme rêvée, cherchée en vain, faite d'illusions autant que de désirs, s'écrie le prince. Toujours dans la petite sirène, qui est un divertissement charmant, les oiseaux anges qui appellent la petite sirène à quitter sa forme de femme pour monter au ciel. Un autre exemple, dans Mystère d'Alceste, le personnage de la mort, qui est invisible, personnage allégorique et symbolique. Autre exemple, les personnages qui sont acteurs de leur propre rôle, qui sont entre la personne, le personnage et l'acteur. Ainsi, les personnages multiples mettent en question le réalisme du théâtre et font perdre au spectateur ses repères. Est-on dans le rêve? Est-on dans la réalité? Est-on au théâtre? Et puis, une dernière remarque sur les dialogues qui exploitent chez Marguerite Yourcenar toute la palette qui vont de l'échange ritualisé entre deux interlocuteurs, mais qui passent aussi par des propos, je cite, « parler à soi-même, rêveusement, dans une méditation personnelle », qui sont des sortes d'îlots de paroles ou de conscience exprimées à haute voix et qui, là encore, font perdre au spectateur ou au lecteur ses repères. Esthétique baroque, pourrait-on suggérer. Enfin, dernier procédé d'incertitude qui me semble caractériser cette théâtralité de Yourcenar, c'est le traitement de l'espace et du temps. L'espace devient un espace propice à la transformation. Par exemple, le marécage que l'on trouve dans La Petite Sirène, mais que l'on trouve aussi dans Qui n'a pas son Minotaure.
Oui, c'est vrai.
La mer, M-E-R, et sa transparence dans les pièces grecques, et aussi La Petite Sirène, la mer qui est, elle aussi, propice à toutes sortes de métaphores aquatiques et terrestres en rapport avec l'identité en question du personnage. Et pour prendre un exemple pour ce qui concerne du temps, on ne sait jamais si on est dans le présent, dans le passé ou le futur. Tout se mêle dans une espèce de présent dilaté. Anticipation, fantasme, rétrospection, rêve, éveil. Le temps est lui aussi, subit lui aussi un traitement baroque. Et on ne sait où on en est de la conscience du personnage et de ce que Marguerite Yourcenar appelle l'éveil ou la vie, les yeux ouverts, pour prendre l'expression de la fin des mémoires d'Adrien. Alors, pour répondre à votre question, pour conclure provisoirement, effectivement, il y a un théâtre, c'est un théâtre littéraire. Certes, il ne permet pas à Marguerite Yourcenar de se tailler une renommée, car celle-ci, d'une certaine manière, est acquise, au point peut-être de faire de l'ombre à son théâtre. Mais ce théâtre est riche d'une théâtralité inventive qui révèle et met en valeur autrement le fondement philosophique, moral et esthétique de son œuvre. Le théâtre et ses procédés, poussés à l'extrême, réalisent la traversée des apparences pour dire l'être, ce qui est l'objet de l'œuvre globale de Marguerite Yourcenar.
Pour chacune de ses pièces, Marguerite Yourcenar écrit une préface, généralement rédigée a posteriori. Ses textes d'escorte, comme les nomme Bruno Blankmann, sont longs, parfois plus longs que les pièces elles-mêmes. Marguerite Yourcenar craignait-elle que le sens des pièces nous reste obscur? Ces prolégomènes ne traduiraient-ils pas une volonté d'éclaircissement, de mise en forme, que les pièces seules ne satisferaient pas, comme si le sens échappait toujours à l'auteur et que même la pièce achevée, Marguerite Yourcenar ne cesserait pas de traquer une façon, en fait, de ne pas lâcher ses textes, Sylvie Joigny?
Oui, Marguerite Yourcenar ne lâche pas ses textes,
je crois.
Elle les accompagne, elle guide son lecteur, elle maîtrise ses textes et peut-être même ce qui n'est pas maîtrisable. Je me saisirai de l'expression de Bruno Blankmann de texte d'escorte pour préciser un petit peu le rôle des préfaces. Effectivement, l'expression me semble bien choisie. Les préfaces accompagnent le lecteur, elles le guident et en même temps, elles constituent des sortes de mises en scène textuelles qui honorent et valorisent la pièce. Alors, je voudrais peut-être préciser en quoi ces préfaces éclaircissent le sens obscur éventuellement des textes pour elle, mais aussi pour le lecteur. Ces textes d'Escorte proposent d'abord des éclaircissements sur sa conception du théâtre, et cela me semble très important parce que son théâtre est extrêmement ambitieux intellectuellement pour un art qui est censé être celui de la représentation visuelle et orale. D'une certaine manière, la note d'intention que constituent les préfaces supplée aux limites du genre théâtral. Alors, je voudrais reprendre une définition de son théâtre qui est issue de la préface de Rendre à César et qui montre l'extrême complexité de son art. Le théâtre est un genre remarquable, dit-elle, par son indétermination. Une forme mi-lyrique, mi-narrative, accueillante à toute la variété des faits et gestes, mais capable également de rendre avec fidélité le chant profond des personnages et le sourd accompagnement onirique et mythique qui soutient celui-ci. Elle poursuit, genre non tranché, dans lequel subsiste entre les faits une sorte d'interstice du jeu, et qui permet mieux qu'ailleurs allégorie, allusion au mythe, glissement du monde réel au monde onirique. C'est-à-dire que ce serait une sorte de genre qui contiendrait potentiellement tous les genres, par sa capacité à être tout et son contraire, le vide et le plein, le temps et le non-temps, la réalité ou la figure. Ce serait par excellence le genre du passage. Alors, idée très intéressante, mais extrêmement compliquée à matérialiser au théâtre, et j'essaierai de montrer comment ils y arrivent. Deuxième type d'éclaircissement, sans doute intéressant pour elle-même, mais aussi pour le lecteur, un éclaircissement sur le matériau des pièces. Toujours une source ancienne qui nécessite un travail de réécriture, et ses préfaces, effectivement, constituent un bon guide pour le lecteur contemporain, qui lui permet d'identifier la lignée dans laquelle se situe le texte et par conséquent son originalité. Prenons l'exemple qui me paraît le plus achevé de « Qui n'a pas son Minotaure », magnifique essai sur les traitements de la légende. Non seulement ce texte d'Escorte est une généalogie du mythe et des légendes, mais encore une très vaste chronologie qui va des temps archaïques aux mythes, aux légendes, aux contes, aux pièces raciniennes, jusqu'aux contemporaines. Mais encore, une vision critique des traitements du mythe dans le théâtre. Les personnages, les situations, les enjeux dramatiques, les échos de civilisation, les tonalités, la proximité avec les genres du conte, de la légende, de la tragédie, de l'épopée. Et encore, au-delà du théâtre, ces textes d'Escorte comportent des points de vue commentés sur les représentations emblématiques et qui ont jalonné toute l'histoire de l'humanité. Cela va de la musique de Monteverde, que Marguerite Yourcenar sent contemporain réel de Sophocle et d'Euripide, jusqu'aux bas-reliefs, aux vases et fresques d'Herculanum, aux sarcophages d'un musée de Syracuse, aux figures de la Villa des Mystères à Pompéi, à l'Ariane du Titien, à celle du Tintoret, au Thésée de Poussin, au Minotaure de Picasso, et j'en passe. Alors, certes, le discours de ces textes d'Escorte est extrêmement savant et témoigne de la maîtrise de Marguerite Yourcenar sur ces textes et valorise son entreprise. Mais en plus, ces textes d'Escorte sont un outil merveilleux pour le lecteur parce qu'ils mettent en perspective un sujet dans l'histoire de la représentation. Alors, pour conclure, le texte Escorte fait de la pièce, certes, le point d'arrivée d'une longue histoire où se trouve Marguerite Yourcenar, mais elle, intellectuellement, elle apporte cette valeur ajoutée d'une mise en perspective qu'elle seule, peut-être, compte tenu de son encyclopédie personnelle, peut faire, et compte tenu aussi du fait qu'elle est évidemment l'auteur de ce théâtre. Alors, en ce qui concerne ces éclaircissements, je voudrais ajouter un élément sur la genèse de son travail, qu'elle précise. Elle précise, par exemple, que qui n'a pas son minotaure, a subi toutes sortes de travaux, de réfections, en 1944 par exemple, laquelle réfection a été inachevée, puis reprise en 1956, en 1957, puis réécrite dans les années 70, et que le titre allégorique ne vient que beaucoup plus tard. Autre intérêt que soulignent ces préfaces, qui est très important pour l'œuvre elle-même, c'est le pont qu'elle permet de tracer entre ces personnages. Par exemple, le personnage de Thésée et le personnage d'Adrien. Et je citerai une phrase de la préface de Qui n'a pas son Minotaure, qui est intéressante parce qu'elle met en perspective le théâtre dans l'œuvre, sur ce personnage d'Adrien, justement, qu'elle compare à Thésée. J'ai décrit dans Adrien un homme qui peu à peu se construit à l'aide de ses actes et du même coup organise le monde. Elle poursuit « Je crois bien que je n'aurais pas réussi à en donner même l'idée la plus inadéquate si je n'avais pas d'abord tenté cette entreprise de comique désintégration. » Donc on voit bien dans ce texte escorte à quel point le théâtre est lié aux romans qui ont eu beaucoup de succès, mais en même temps que le théâtre n'est pas seulement est un laboratoire, mais pas seulement cela, qu'il y a un dialogue entre toutes ces œuvres et qu'elles sont à considérer d'une certaine manière, elles sont à considérer pour leur autonomie. Ces textes escortes sont loin donc d'être seulement des textes d'accompagnement. Je crois qu'il faut les considérer comme des reflets des pièces, des introductions aux pièces et des sortes de miroirs l'un de l'autre.
Alors Marguerite Yourcenar a donc écrit 6 pièces, dont une trilogie inspirée des tragédies grecques, vous venez d'en parler. Électre ou la chute des masques, écrite en 1944, mais éditée 10 ans plus tard, et en 1963, Le mystère d'Alceste et Qui n'a pas son Minotaure. Beaucoup de dramaturges aiment à se frotter à la tragédie grecque, comme en quelque sorte un exercice de style. Mais qu'est-ce qui intéresse Marguerite Yourcenar dans ce corpus ?
Alors, on connaît la familiarité de Marguerite Yourcenar avec le corpus grec, son goût, ses sentiments, son affection, pourrait-on dire, pour la tragédie grecque. Et on peut imaginer effectivement que comme Gide, comme Cocteau, comme Giraudoux, Anouilh, Sartre, Camus, elle se frotte à la tragédie grecque et qu'elle aussi fasse son exercice de style. Alors, je relativiserai peut-être l'expression de l'exercice de style, parce que si ces exercices de style naissent à cette époque, grosso modo de la crise économique de 25 à 45 ou de la crise économique de 29 à la fin de la guerre, c'est évidemment que le moment est grave et que par son universalité, le mythe permet de dire les questions de conscience qui se posent à ce moment-là, la question du bien et du mal, de la justice et de l'injustice, de la légitimité du pouvoir, de la liberté, de l'action politique, de la compromission, de la collaboration, naturellement, et que cette universalité, ce recours à un récit en images et à une parole ancienne, permet aussi de déjouer la censure. Alors, certes un exercice de style, mais une parole grave à laquelle s'associe Marguerite Yourcenar pour des raisons historiques, mais pour des raisons plus complexes que je vais essayer de préciser maintenant. Il me semble que par rapport aux autres auteurs que je viens de citer, elle utilise du mythe d'autres vertus, l'universalité certes, mais aussi la potentialité de fluctuation du mythe, de revirement, de dépassement. Je rappelle le postulat que je disais en commençant, tout est autre que nous le pensons. Et son théâtre, comme le reste de son œuvre, s'intéresse beaucoup à la métamorphose. Alors, la potentialité de fluctuation du mythe, elle l'utilise pour mettre en question les valeurs qui s'opposent habituellement. Son théâtre met en question le singulier et le collectif, la petite psychologie des hommes et le sacré, Le contingent est le nécessaire, le passager est l'éternel, le changeant est l'immuable. Elle utilise encore le mythe pour dire les essences. Je rappellerai cette définition que donnait Barthes à la mythologie. Le mythe, disait-il, donne aux actes humains la simplicité des essences. Et Marguerite Yourcenar, loin d'une restitution archéologique qui n'est qu'un point de départ et avec laquelle elle prend beaucoup de liberté, Marguerite Yourcenar est intéressée par le mythe pour mettre en valeur cette simplicité des essences. Comment procède-t-elle ? Par un triple mouvement, je crois. D'une part, l'utilisation du matériau grec, les Atrides par exemple, et sa version le plus souvent réaliste pour exprimer la gravité du temps. Deuxième mouvement, un mouvement qu'on pourrait caractériser de démythification, même de, employons ce néologisme, de détragification par une actualisation un peu provocatrice. Et puis, un troisième mouvement et aboutissement, accès à une essence. À une essence qui lui permet de poser la question des questions, la question fondamentale pour elle, qui est la transmutation de la mort à la vie, qui est la résurrection. Et je me référerai, pour illustrer cette idée, au titre « le mystère d'Alceste qui met en jeu la résurrection d'Alceste. Mais si nous prenons ces autres pièces, nous voyons qu'il y a toujours un autre mouvement et qu'il s'agit toujours, comme l'indique le mot « mystère » au Moyen-Âge, d'un jeu liturgique de la mort et de la résurrection. L'écriture de Marguerite Yourcenar se dote pour tâche de ressusciter les morts et d'en faire, par la transsubstantiation que permet l'écriture, des vivants, ou plus justement l'essence de la vie. Je prendrai donc l'exemple d'Hercule, qui redonne vie à Alceste et qui l'appelle, je cite, « vivante nouvelle-née, figure de l'autre monde ». Il me semble que ce personnage et cette expression traduisent bien l'aboutissement de ce travail sur le mythe qui, on le voit, n'est pas seulement un exercice de style, mais un exercice de transformation, de métamorphose et un exercice de saisie et de conceptualisation des essences. Et puisqu'il s'agit de théâtre, un exercice de matérialisation des essences. D'où, dernier point peut-être sur cette utilisation du corpus grec, qu'est-ce qui intéresse Marguerite Yourcenar dans ce corpus ? Eh bien peut-être la possibilité de faire de la tragédie grecque une poésie mystique, une poésie qui permette l'aboutissement à Dieu ou son idée, l'aboutissement à une essence, disais-je tout à l'heure, l'aboutissement à une transcendance. Je prendrai quelques exemples de personnages et quelques citations pour illustrer ce propos qui peut sembler abstrait. Première illustration, le personnage d'Ariane, qui est emmené par Hercule au ciel et qui vante ce nouveau monde auquel elle arrive, une fois ressuscitée par Hercule. Et si le vent se lève, si ce calme n'est qu'interlude dans le drame d'un monde moins sage que nous-mêmes, ô Thésée, qu'importe, nous sommes arrivés, nous sommes au centre. Le mot départ ne signifie rien et je ne comprends plus le mot retour. Seule l'inquiétude de l'homme invente la crête et le Minotaure. Je commente, autrement dit, le mythe est une mystification. Démystifions le mythe et inventons notre mythe personnel. Et nous sommes au centre, j'ai voulu insister sur cette idée, la mort est dépassée, la vie est dépassée, la mort est dépassée, et nous arrivons dans un autre univers qui est le centre, loin de toute réalité. Et le théâtre permet, paradoxalement, d'exprimer cette autre réalité. Je ferai un parallèle avec le personnage d'Octave dans Souvenir pieux, dont Marguerite Yourcenar dit qu'il cherche à posséder Dieu, que son regard s'élargit, devient démesuré, résume l'être, que son rêve diminue jusqu'à se condenser dans le point contemplé. Il agrandit son cours, dit-elle, jusqu'à engloutir le monde et à posséder Dieu. Le personnage d'Ariane ou le personnage d'Octave arrive à cette chose qui s'appelle Dieu ou qui s'appelle un centre ou qui s'appelle une essence. Et troisième et dernier personnage qui me semble intéressant et montrer à quel point l'objet de Marguerite Yourcenar est de traquer cette essence-là, c'est le personnage d'Adrien qui, un peu à la manière de Claudel, cherche à connaître, à apprendre et naître avec, je cite Marguerite Yourcenar dans « Mémoires d'Adrien », avec ce mystère éleusiaque du passage et du retour. Ce personnage d'Adrien qui, par un travail de connaissance du monde et de soi, va se construire, hein, comme Thésée, disait-elle tout à l'heure. Il s'agit donc, par le recours au mythe, non pas de produire un exercice de style de plus. Certes, elle est de son temps, elle veut s'inscrire dans son temps, elle veut s'inscrire différemment et peut-être mieux. Mais il s'agit de s'emparer du mythe pour en faire une forme renouvelée et une forme signifiante, une forme sens, pourrait-on dire. Une forme sens dans un itinéraire qui n'est plus seulement un itinéraire théâtral, littéraire, etc., mais qui est un itinéraire initiatique. Il s'agit de traquer l'être et le mythe le permet.
Comme un nœud de serpent qui sans cesse se reforme, les aventures d'Électre et des siens épousent tour à tour tous les aspects de la famille criminelle au cours des siècles. En guise de pièce à conviction, les fouilles de Mycène ont fourni des masques et des poignards d'or, mais les témoignages écrits ne remontent pas plus loin que quelques vers d'Homère ou le spectre d'Agamemnon évoque le crime de Clytemnestre. Et la femme aux yeux de chien me tua et s'éloigna sans me fermer les paupières, me privant ainsi des honneurs nécessaires aux morts. Et elle ne me laissa pas jouir de la vue d'Oreste. Cette allusion d'Homère au meurtre d'Agamemnon, comme à un crime déjà célèbre, présuppose sur ce point l'existence d'une légende solidement établie, peut-être entrée dans la littérature avant les poèmes homériques eux-mêmes. Nous supposons que l'aventure des Atrides faisait partie de ces épopées dites des retours, dont l'Odyssée, consacrée au voyage d'Ulysse, reste un exemple, et qui toutes montraient les vainqueurs de Troie retrouvant tardivement, et avec des fortunes diverses, leur famille et leur patrie. Mais la légende des Atrides ne se bornait pas à cette seule histoire de guet-apens par l'épouse, de meurtre et de vendetta exercée par les enfants du mort. Avant d'être un mari trompé, abattu dans son bain par sa femme et par l'amant de celle-ci, Agamemnon avait été le roi des rois, dont les abus de pouvoir provoquaient les insultes de Thersite et la colère d'Achille. Il avait joui de ce doux butin féminin qu'étaient Briséis et Cassandre. Il avait égorgé à Calcis sa fille Iphigénie, s'attirant ainsi à jamais la rancune maternelle de Clytemnestre. Clytemnestre elle-même était la sœur des Dioscures et d'Hélène, la fille légitime de Léda et de Tindare, moins belle pourtant que la blanche créature née des plaisirs du cygne. Agamemnon, enfant, avait senti l'odeur du festin de chair humaine offert par son père Atrée à son oncle Thieste, petit-fils de Pélops, qui fut le favori de Neptune et le ravisseur d'Hippodamie. Il remontait de crime en crime, d'amour en amour, jusqu'à ce mystérieux Tantale, enlevé par Zeus pour lui servir des chansons, avant Ganymède et supplicié pour avoir volé l'ambroisie à la table des dieux. Égiste était fils de Thieste et cousin d'Agamemnon. Il avait vengé sur le fils d'Atrée ses frères égorgés comme des agneaux dans les cuisines de Mycène. De tant de mythes et de faits divers de l'âge d'Airain, la tragédie grecque, avec une sûreté admirable, finit par isoler et par retenir surtout le thème humain essentiel, l'histoire du père assassiné, de la mère criminelle et des enfants vengeurs. Marguerite Yourcenar, extrait de l'avant-propos à la pièce « Électre ou la chute des masques » in Théâtre 2, édition NRF Gallimard, 1971. On voit Sylvie Joigny dans cet extrait, l'esprit philologue, disons, de Marguerite Yourcenar qui retrace le destin d'Agamemnon. Peut-on faire la part de ce que doit l'Électre de Marguerite Yourcenar à la légende des Atrides et ce qu'elle doit au théâtre de son temps, plus tourné peut-être vers le théâtre psychologique?
Oui, le cas d'Électre ou la chute des masques est extrêmement intéressant pour suivre le travail de dramaturge de Marguerite Yourcenar, qui, effectivement, plus que ses congénères, construit un théâtre, comme vous l'avez dit, beaucoup plus psychologique. Essayons de retracer l'itinéraire de création de Marguerite Yourcenar. Premièrement, le choix de la légende des Atrides. Le choix de la version, d'ailleurs, la plus réaliste, hein, dit-elle. Elle choisit Euripide parce que c'est le plus réaliste. Et d'Euripide, elle garde le cadre, la situation, le nom des principaux personnages. Elle résume d'ailleurs de manière laconique cette action, on reconnaîtra à la fois sa sobriété, son humour et son jeu avec les mythes. Il s'agit d'une situation de l'héroïne mariée à un paysan, vivant avec lui dans une misérable hutte où elle attire sa mère pour la mettre à mort. Vous avez compris qu'il s'agit là de l'action du meurtre de Clytemnestre et d'Égiste par Électre et Oreste qui vont venger la mort du père. Deuxième travail à partir de cette légende des Atrides. Elle opère un travail de condensation et de déplacement, pour employer des expressions freudiennes. Elle élimine des personnages secondaires. Elle utilise des personnages à d'autres fins, par exemple le mari paysan qui change de nom, qui est appelé ici Théodore, et qui a dans le théâtre de Marguerite Yourcenar une double fonction, la fonction de personnage et la fonction de cœur. Oui, deuxième travail, c'est un travail qu'on pourrait appeler de condensation et de déplacement des personnages. Condensation, en effet, elle élimine des personnages secondaires et elle donne à d'autres personnages d'autres fonctions. Par exemple, le mari paysan d'Électre, qui devient Théodore chez Marguerite Yourcenar, va prendre une double fonction, une fonction de mari certes, mais le mari qui va prendre aussi une fonction de cœur. Troisième travail, c'est un travail sur les mobiles psychologiques des personnages. Des mobiles psychologiques beaucoup plus que héroïques ou sociaux. Par exemple, le mariage blanc d'Électre, qui est une donnée du drame grec, va s'expliquer chez Marguerite Yourcenar moins par le rapport entre la noblesse et la domesticité que par le désir de pureté et de virginité d'Électre. On peut d'ailleurs penser au personnage d'Antigone aussi, auquel on est familier à cette époque-là. Cette virginité, cette pureté désirée par Électre s'explique par un désir, et c'est tout à fait nouveau dans ce traitement de la légende des Atrides, un désir amoureux d'Électre, désir de pureté et de virginité qui s'expliquerait chez Électre par un désir amoureux ancien d'Égiste, l'amant de sa mère. On voit donc que le traitement de Marguerite Yourcenar est effectivement participe d'une littérature d'après Freud, pour prendre une expression de Beauchot. Quatrième opération, en désagrégeant les mobiles psychologiques, Marguerite Yourcenar modifie l'enjeu tragique. Si les mobiles d'Électre et d'Oreste sont désagrégés, alors le tragique n'est plus ou est tel qu'on le croit. Les personnages, dit-elle, seront tour à tour, les uns pour les autres, leurs dieux et leurs furies, leurs infirmiers et leurs fantômes. C'est-à-dire que les héros ne sont plus les victimes du destin, mais des acteurs à part entière de leur vie et de leur salut, plus ou moins conscients de leurs minotaures intérieurs. Le tragique ne vient pas de la confrontation entre le destin infiniment puissant et l'homme infiniment petit, ce qui est la matière même de la tragédie, mais de la chute d'une double illusion, celle des personnages, ici d'Electre et d'Oreste, qui croient agir pour la justice et la vérité alors qu'ils ne sont que le jouet de leurs fantasmes, de leurs illusions. Le crime alors perd donc toute légitimité. Deuxième illusion, c'est l'illusion du lecteur-spectateur, dont l'attente de la fin tragique est déjouée. Il ne s'agit plus donc d'une représentation d'Electre, mais de la chute des masques. Double masque, pourrait-on dire. Nos héros sont devenus des personnes, et c'est d'ailleurs le dernier mot de la préface. Les visages ont dévoré les masques, et Marguerite Yourcenar dit avoir fait, je cite, « table rase des motivations traditionnelles, des prétextes héroïques utilitaires sur lesquels il s'appuyait pour agir ou juger ». Alors, identifions rapidement cette dramaturgie de Marguerite Yourcenar dans ce traitement de la légende grecque. On pourrait dire que c'est une dramaturgie du coup de théâtre, du retournement, de l'antithèse. Elle joue en effet de l'outil privilégié du théâtre, le coup de théâtre, pour traiter les personnages et les traiter à contre-courant. Electre devient une tueuse motivée par des pulsions incestueuses. Égiste devient une victime de l'aveuglement filial d'Oreste qui ignore bien sûr qu'il est le vrai fils d'Égiste. Et cela donne des passages, un traitement tout à fait inouï du personnage et un lyrisme sentimental qu'on n'imagine pas provenir de la bouche d'Égiste. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette réplique d'Égiste. À Electre qui est sarcastique, provocatrice, sadique et qui lui dit « Tu vois, j'ai tué ta femme ». Égiste répond ainsi « Tu n'as pas tué la femme que j'aimais. Mon attachement à Clytemnestre ne se mesurait plus dans les termes idiots de l'amour. Tu as détruit une certaine manière de déjeuner ensemble le matin, un certain type de conversation d'affaires ou de dispute aux cartes. Le goût de certains mets, dont je ne mangeais que parce qu'elle les préférait, l'envie de certaines promenades qu'elle ne faisait que pour me complaire et que je ne ferais plus sans elle. En un mot, la moitié de ma vie. » Lyrisme inouï, paroles inouïes, traitement inouï, d'Égiste à contre-courant, de l'amant qui a désiré prendre le pouvoir et qui aurait participé au meurtre du père. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'elle travaille le coup de théâtre comme elle travaille l'antithèse. Hein, Barthes disait de l'antithèse, c'est le combat de deux plénitudes mises rituellement face à face. On pourrait dire que Marguerite Yourcenar a la plénitude du personnage mythique transmis par la tragédie grecque, oppose la plénitude de l'individu singulier, moderne, moyen, qui a ses petits sentiments et sa petite grandeur. Et pour reprendre cette définition de l'antithèse comme un combat, je dirais que dans ce combat du mythe tel qu'il est revu par Marguerite Yourcenar, il y a deux temps. Un premier temps, les masques tombent, et avec les masques aussi les masques du mythe. Et puis un deuxième temps, qui me paraît très intéressant et très original dans le traitement du mythe à cette époque, c'est l'accès à la Renaissance et l'accès des personnages à eux-mêmes. Je cite ces dernières phrases de « qui n'a pas son minotaure », enfin, ces phrases qui arrivent vers la fin de la pièce. « Oreste s'écrit ». Je suis le frère d'Electre. Théodore, à la fin de la pièce, je suis le mari d'Electre. C'est-à-dire que c'est le temps de l'écriture, la naissance suprême, si l'on veut. Et le mythe et l'argument du mythe est dépassé par le retournement, par l'antithèse. La mort est dépassée et on arrive à la Renaissance et le centre, comme disait Ariane tout à l'heure, l'absolu, l'idée de Dieu. Alors, je termine. Marguerite Yourcenar a désillusionné, a démythifié la légende des Atrides, a démasqué les masques pour trouver une vérité et accéder à l'écriture, les yeux ouverts.
En lisant votre article, Sylvie Joigny, intitulé « Pour une poétique raisonnée de la naissance, le théâtre de Marguerite Yourcenar vu par elle-même », article que vous avez publié dans un certain lundi 8 juin 1903, édité chez l'Harmattan en 2004, je me demandais justement, mais enfin vous l'avez un peu évoqué, si les pièces de Marguerite Yourcenar n'étaient pas une tentative de tirer au jour la part obscure, une tentative d'ordonnancement du chaos qui est en chacun de nous. D'ailleurs, le titre de l'une des pièces de Marguerite Yourcenar, « Qui n'a pas son Minotaure » n'est pas anodin, Sylvie Joigny.
Oui, la part obscure dont vous parlez me rappelle ce titre d'une nouvelle magnifique de Marguerite Yourcenar, « L'homme obscur ». Et dans ce théâtre, c'est effectivement, et c'est encore là, une fois très original, c'est l'homme qui est obscur et non le destin. Et le théâtre de Marguerite Yourcenar permet effectivement d'ordonnancer le chaos qui est en chacun de nous. L'obscurité, en deux mots, de quelle obscurité par Marguerite Yourcenar, du destin obscur des personnages, de la cause obscure qu'ils servent. Et je citerai le propos de Thésée qui illustre à la fois le destin obscur et la cause obscure qui est la sienne. On comprend que Thésée n'est pas un héros, c'est un homme qui a peur, et peur de manière très, très petite, peur même du ridicule. Je cite ce passage qui me semble extrêmement significatif. « Je m'y perds, il fait noir comme dans un antre, rien de plus exténuant que de se battre dans la nuit. Elle supprime le monde extérieur. J'ai l'impression de plonger dans mes ténèbres internes. » Et les circonvolutions du labyrinthe me font penser à mes entrailles. Trouverai-je le Minotaure au fond ? S'il n'existe pas, je vais me couvrir de ridicule. Et l'homme est obscur, la cause est obscure, et l'action même est obscure. Il s'agit évidemment pour Thésée de tuer le Minotaure. Il revient du labyrinthe et il ne sait même pas s'il a tué le Minotaure. Je cite quelques répliques tout à fait inimaginables, là encore. Ariane affirme « Vous avez tué le Minotaure » et Thésée réfléchit, mais conclut « Le Minotaure est invisible. Il est obligé de montrer son front et de se résigner à ce constat. Je n'ai du combat d'autre preuve que cette flaque rouge. » Et c'est par le raisonnement un peu spécieux d'Ariane que l'on doit bien admettre que le Minotaure est mort. Je cite « Le Minotaure est mort, puisque vous saignez. » Comment le théâtre permet-il d'ordonnancer le chaos? Eh bien, par l'art du dialogue que Marguerite Yourcenar utilise en philosophe dans ce théâtre. Un art du dialogue qui met en question le destin par rapport à la liberté, l'héroïsme par rapport à l'humanité peureuse, la cause supérieure par rapport à la cause contingente, l'action, élément central du mythe, comme par rapport à l'action comme élément d'incertitude. Art du dialogue et art aussi de la représentation. Elle joue, je le disais en commençant, en virtuose des catégories du théâtre. Grâce à l'enjeu dramatique et à une formalisation inhabituelle, elle met en question l'action. S'agit-il de sauver des victimes et quelle est la valeur de ces victimes? Minos met en question, je cite, « la valeur de la marchandise ». Intéressant en tant que condamné à mort, les individus en question sont probablement médiocres en tant qu'hommes et nuisibles en tant que citoyens. Autre composante essentielle du théâtre, l'effet dramatique. Marguerite Yourcenar ne cesse de tourner en dérision à la fois l'action, les personnages et les effets produits. Thésée évoque son émotion devant le spectacle, quand Autolycos évoque le délire que c'est, qui, selon lui, ne vaut pas la peine d'être écouté. Marguerite Yourcenar interroge encore l'aspect essentiel de la spatialité, de la temporalité au théâtre. Elle utilise la question du lieu pour dialectiser le dedans et le dehors, l'extérieur, l'extériorité et l'intériorité du Minotaure. Est-il dans le labyrinthe ou est-il en nous ? De même pour le temps qui devient un temps tout à fait dilaté, comme on le disait tout à l'heure. Ainsi, dans ce théâtre, comme art du dialogue et art de la représentation, l'homme n'est plus un, mais multiple et confus. L'homme n'est plus une rationalité, mais un ensemble de voix qui parlent, dont on ne sait jamais qui va l'emporter et qui doit l'emporter. Et c'est grâce au théâtre que Marguerite Yourcenar matérialise cette idée complexe et cette idée qui fait peur. Et un dernier point, sur cet ordonnancement du chaos, vous avez repris ce terme à Marguerite Yourcenar, je crois que le mot est très juste. Dans ordonnance, il y a l'idée d'ordre, mais il y a aussi l'idée d'harmonie et l'idée d'un jeu rituel, d'une cérémonie. Il me semble que c'est de tout à fait de cela qu'il s'agit et que, d'une certaine manière, le théâtre permet de dire une troisième issue. Je reprends cette expression de Thésée qui dit à un moment « Les jeux sont faits. Docile ou rebelle, je fais le jeu de ma famille si je cherchais une troisième issue. » Eh bien, cette troisième issue, je crois que Marguerite Yourcenar, dans son théâtre, l'explore. Et cette troisième issue, elle est, ce que je disais tout à l'heure, l'essence, l'absolu, Dieu, l'idée. Elle est... Et je citerai ce propos d'Ariane, que tu es beau rocher des âges, tu t'étires, tu changes, de rocher tu deviens cristal, banquise, grand nuage blanc, ni homme ni bête, peut-être pas même Dieu, sorti des noms, sorti des règnes. On est dans cet espace imaginaire, un espace de l'écriture, un espace théâtral qui est un espace de l'absolu.
Les aventures gréco-crétoises de Thésée, sa lutte avec le Minotaure, ses amours avec les deux sœurs du monstre, la prudente Ariane et la dangereuse Phèdre, comptent parmi les légendes antiques qui comportent le plus d'éléments immédiatement comparables à ceux du conte populaire par tout pays et dans tous les temps. Victimes offertes à un monstre, labyrinthe, fil conducteur donné au héros par quelque fée bienveillante ou quelque sage princesse, belle abandonnée, voile noire annonçant le malheur arboré par Mégarde, peut-être par mégarde. Marâtre, amoureuse et perfide, accablant son innocent beau-fils, nous reconnaissons ces lieux communs du folklore qui parfois, entre les mains d'un poète, comme c'est le cas pour l'aventure d'Hippolyte et de Phèdre chez Euripide et chez Racine, finissent par se muer en la poésie la plus pure. Marguerite Yourcenar, extrait d'Aspect d'une légende et histoire d'une pièce, préface à Qui n'a pas son Minotaure, Théâtre 2, NRF Gallimard, 1971. Il semble que le conte, en tant que modèle quasi universel, soit considéré par Marguerite Yourcenar comme la forme archaïque, primitive. Le conte serait la forme matricielle du théâtre, qui lui serait en quelque sorte la forme seconde. Il y aurait donc une logique à ce que la préface à la pièce, la préface, se présente sous forme de conte.
Du conte au théâtre, une logique assurément conforme, en tout cas à l'utilisation que fait Marguerite Yourcenar du théâtre, un théâtre initiatique qui traduit une quête de soi. Mais ce qui me semble important encore dans votre question que vous soulignez, c'est l'entreprise de relativisation de Marguerite Yourcenar de nos représentations, et en particulier de celles que notre culture nous a habitués à exalter, à magnifier, au point parfois de nous inhiber. Et ce qu'elle souligne, c'est le fait dans ses préfaces, dans ses correspondances, dans ses multiples traités, elle confirme une fois de plus que le théâtre grec n'est que l'aboutissement d'une expression orale colportée par une tradition multiséculaire. Avant d'être théâtre, celui-ci a été conte au sens premier du terme que l'on écrivait en ancien français avec un P et un T, c'est-à-dire énumération d'événements et de faits réels, puis mise en récit pour distraire et plaire et exprimer une expérience morale. Donc, logique, effectivement, du passage du conte au théâtre et comme votre jeu sur le mot de préface est tout à fait justifié.
Examen d'Alceste. Il y avait une fois, dans un royaume pastoral d'une Grèce de légende, un prince aimé d'Apollon et dont le rustique palais avait servi d'asile à celui-ci au cours d'un exil temporaire loin de l'Olympe et du ciel. Mais l'amour des dieux ne protège guère la malheureuse race des hommes. Un oracle menaça de mort le jeune prince, à moins qu'une victime humaine ne s'offrît volontairement à sa place. Il se chercha partout des substituts, implora même son père et sa mère, mais ne trouva que sa femme qui prit courageusement sur elle l'horrible fardeau. Sitôt que cette épouse dévouée fut morte, le vieux père du prince vint s'acquitter de ses devoirs auprès du lit funèbre, mais fut mal reçu par le jeune veuf qui lui reprocha sa lâcheté, et le père et le fils, s'accusant mutuellement d'égoïsme, échangèrent des mots amers. Les cérémonies funéraires commençaient dans la grande demeure quand un étranger frappa à la porte, demandant pour la nuit le vivre et le couvert. À cette époque encore, voisine de l'âge d'or, l'hospitalité était une obligation à laquelle ne se soustrayait personne. Pour ne pas éconduire ce passant, le prince lui cacha le deuil où sa maison était plongée. Or, il se trouvait que l'étranger était un héros au grand cœur, à l'âme innocente et simple, mais aux manières incultes, au gros appétit d'homme robuste. On l'installa dans la chambre haute, on lui offrit un bon repas. Un jeune esclave attentionné fut mis à son service. Il se gorgea, il but, il scandalisa le domestique par des danses et des propos incongrus. Celui-ci, enfin, pour essayer de lui imposer silence, lui apprit de quel deuil la maison était frappée. Dégrisé, le héros se jura d'expier ses indécences. Il resterait seul de garde auprès du cadavre, aux aguets de la mort qui viendrait prendre livraison de l'âme de sa victime. Il entrerait en lutte avec ce beau jeune homme aux cheveux noirs qu'était la mort pour les Grecs. Tout se passa comme il se l'était promis. Il reconquit et ramena à son époux la jeune femme voilée et momentanément muette. car il ne convient pas, comme on sait, que les morts rendus à la vie trahissent par leurs regards et leurs paroles les secrets encore tout récents de l'autre monde. Pour éprouver le jeune veuf, le héros prétendit qu'il s'agissait d'une belle esclave qu'il avait reçue comme prix d'un combat et ne pouvait emmener avec lui dans ses voyages. Le prince refusa d'ailleurs l'inconnue, indigné qu'on pût le soupçonner d'accepter sous un prétexte quelconque une autre femme à son foyer. Mais déjà Hercule, car c'était lui, arrachait le voile de la ressuscité. Admète et Alceste réunis allaient jouir d'un bonheur aussi durable que peuvent le connaître les fragiles créatures humaines, et Hercule repartait vers les dangers, vers la gloire et vers les grands chênes tranchés par la hache qui lui servirait un jour de bûcher au sommet du mont Œta. C'est sous cette forme qu'Euripide nous a transmis la légende d'Alceste qui, à l'époque où il l'a recueillie pour en faire l'argument d'un drame, se perdait sans doute déjà dans la nuit des temps. Marguerite Yourcenar, extrait d'Examen d'Alceste, préface à la pièce en un acte, Le mystère d'Alceste. In Théâtre 2, édition NRF Gallimard, 1971. Sylvie Joigny, on trouve ici la préface en forme de conte dont nous parlions à l'instant. Mais ce qui intéresse dans cet extrait, c'est l'évocation assez inhabituelle de l'aspect folklorique de la tragédie grecque que Marguerite Yourcenar met en évidence.
La tragédie grecque serait folklorique, mais ce n'est pas sérieux. Il faut le prestige de Marguerite Yourcenar pour dire des choses pareilles. En réalité, c'est l'expression qui est provocatrice. Mais l'idée est celle qu'elle exprime dans son œuvre. Le matériau grec est, dit-elle, un amas de traditions hétéroclites. Et le vieux folklore européen permet de suivre les traces du mythe du labyrinthe, par exemple, de la mer Égée à la Baltique. Je cite qui n'a pas son minotaure. Mais je voudrais surtout revenir sur le passage que vous avez choisi pour souligner à la fois la qualité d'analyse de ce théâtre et de ses préfaces et la qualité poétique. Je crois que le passage que vous avez lu montre cette gageure qui est tenue chez Marguerite Yourcenar d'équilibre entre l'analyse et le plaisir du texte.
Marguerite Yourcenar ne semble pas, Sylvie Joigny, avoir été très intéressée, ni questionnée, ni même influencée par les dramaturgies nouvelles de son temps. Je veux dire qu'il y a nulle trace de Brecht, nulle trace de Beckett, par exemple, pour ne citer que. Au fond, elle a peut-être abordé le théâtre plus en littérateur qu'en dramaturge. Et donc, ces dramaturgies nouvelles ne l'ont peut-être pas tellement intéressée.
Intéressée, je ne sais pas, mais effectivement, dans ce théâtre, elle donne l'impression de suivre son chemin depuis la première œuvre jusqu'à la fin, théâtrale et romanesque. Et les influences, elle s'en nourrit sans qu'elles soient identifiables. On sent, par exemple, des traces de Pirandello, mais aucune trace de Brecht, parce que le didactisme de Brecht et l'esprit de système ne peuvent pas être... elle ne peut pas adhérer à l'esprit de système et au didactisme de Brecht. Quant à Beckett, effectivement, nulle influence visible dans son œuvre. Et la question de l'absurde et de la dramaturgie de l'absurde est très éloignée de son esthétique et de sa problématique. Pour revenir à votre question et pour conclure, effectivement, on peut dire que Marguerite Yourcenar a été intéressée par l'écriture et l'érudition, plus que par les questions de la représentation.
Nous arrivons à la fin de notre entretien. Sylvie Joigny, je vous remercie. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs, que les références des publications de Sylvie Joigny sont données sur la page de ce troisième volet du cycle, Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde, proposée et présentée par Lucrèce Lachenardière, dans une réalisation de Mathieu de la Jarte pour Canal Académie.